Et nous voici arrivés à l'heure de contre-histoire. Alors, je vous repasse le titre indicatif de Redan, parce que vous verrez qu'il est particulièrement assorti à ce contre-histoire qui va s'appeler « Porte du soleil ».
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Alors, comme je vous ai mis en pause musicale, coupé diversement la vida breve, eh bien nous allons retourner en Espagne. Avec le dernier numéro du Monde diplomatique qui fait une superbe double page sur la retirada. Voilà, c'est un article d'Anne Mathieu. Anne Mathieu, qui est maîtresse de conférences en littérature et journalisme à l'Université de Lorraine, qui est directrice de la revue Aden, Paul Nizan et les années 30, et créatrice du site www.reporterecompagnieguerredespagne.fr. Voilà les travaux, une synthèse des travaux d'Anne Mathieu sur la guerre d'Espagne. À l'issue de la guerre civile déclenchée par le général Franco, la défaite des républicains espagnols est consommée. Certains qu'une répression sans pitié les attendait en Espagne Des centaines de milliers d'entre eux se réfugient en France au début de l'année 39. Des journalistes de gauche, mais pas seulement, témoignent alors de leur sort. Notre tour de la souffrance est désormais terminé. À la tour de Carole, à Argelès, en passant par Saint-Cyprien, pour Madame Amélie-les-Bains, Arles-sur-Tech, Le Boulou, nous avons vu toucher de près les plus épouvantables misères. Voici une dizaine de jours que le reporter Ribécourt, de retour d'Espagne, visite les camps des Pyrénées-Orientales accueillant des réfugiés espagnols. De tous ses confrères dépêchés sur place par la presse de la gauche française, c'est lui qui en possède la connaissance la plus ample. Il travaille pour le quotidien Ce Soir, dirigé par les journalistes écrivains Louis Aragon et Jean-Richard Bloch, et dont le secrétaire général est leur homologue Paul Nizan. Le journal est créé en mars 1937 par le Parti communiste. Et la part y est belle faite à la photographie, laquelle est fréquemment issue de l'œil de Robert Capa. En ce 20 février 1939, le reportage de Ribécourt démarre avec une une où on lit « 30 000 blessés et malades dans les camps de concentration ». Ce dernier terme peut surprendre. Il est alors celui employé par l'administration et a été défini par le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, début février. Le camp d'Argelès-sur-Mer ne sera pas un lieu pénitentiaire, mais un camp de concentration. Ce n'est pas la même chose. Le 26 janvier 1939, les troupes de Franco et de ses alliés sont entrées dans Barcelone. Le 4 février, Gérone est prise. Le 10 février s'achève la conquête franquiste de la Catalogne. Entre-temps, a débuté la retirada, retraite, l'exode le plus considérable qui se soit jamais produit à une frontière française. Des centaines de milliers d'Espagnols la franchiront. Autant d'étrangers indésirables, ainsi stigmatisés par les décrets-lois d'Aladier de 1938. À partir de fin janvier 1939, des reporters acquis à la cause républicaine, dont certains ont suivi l'exode d'Espagne en France, sont envoyés à la frontière, soit celle de la Junquera, le Pertus, soit celle de Porbou-Cerbère. Outre le chargement inutile que s'infligent les évacués, les journalistes sont tous frappés par cette foule qui traverse la frontière. Depuis le matin, ils descendent sans arrêt de la montagne, en file ininterrompue, grossis par des voitures poussiéreuses ou des groupes de mulets surchargés de ballots et d'ustensiles les plus divers, décrit le 7 février Georges Beaubois, rédacteur du quotidien communiste L'Humanité, au Boulou, village où l'on centralise et vaccine. Au Pertus ou à Prat-des-Molo, fin janvier, le journaliste et traducteur Louis Parot se confronte, pour Ce Soir, à ces cohortes de la misère. Le terme « cohorte » est récurrent dans tous les reportages. On relève également celui de « horde » chez les envoyés spéciaux de la SIA, journal de l'organisation libertaire de « Secours » Solidarité internationale antifasciste, fondée en Espagne en juin 1937. Jules Chazanoff, dit Chazoff, et Lucien Aussard y dépeignent, le 9 février, une horde d'émigrants, de fugitifs, les uns éclopés, les autres malades, tous épuisés. Thank you. Les hommes valides sont escortés vers les camps d'internement, nous apprend l'historienne Geneviève Dreyfus-Armand. Quant aux femmes, aux enfants, aux malades et aux personnes âgées, même si nombre d'entre eux échouent dans les camps de concentration, ils sont massivement évacués dans divers départements de l'intérieur où des centres d'hébergement les accueillent tant bien que mal. Elle précise. Il arrive aussi que ces séparations se produisent dans des camps de triage ou de collectage situés près de la frontière, à Prades-et-Molo, à la Tour de Carole, au Boulou, à Bourg-Madame ou à Arles-sur-Têche. Réfugiés, souvent évacués, parfois émigrés, émigrants, fugitifs, plus rarement. Tels sont les termes employés par les reporters pour nommer les Espagnols en ce début d'année 39. Des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont plus de pays et dont le statut repose désormais sur la masse à laquelle ils appartiennent. Commençons à entrer avec eux dans les camps. Le thème de la souffrance prédomine dans les reportages. Il recouvre deux tourments enseignés par Ribécourt. Le 18 février, après sa visite des camps à l'Orée de Bourg-Madame. Installés à ciel ouvert, sur de grandes aires nues, ils reçurent par milliers des réfugiés. Plusieurs jours et nuits durant, des milliers d'êtres humains connurent des terribles souffrances, la morsure du froid, l'angoisse de la faim. Il fait froid parce que c'est l'hiver, que la neige blanchit les silhouettes qui s'engagent vers la frontière. Il fait froid à cause de la pluie. Mention météorologique récurrente, tel un décor inamovible, commandé par tous les envoyés spéciaux. La pluie est tellement incessante que lorsqu'elle s'arrête, elle conduit un reporter réputé du quotidien socialiste Le Populaire, Jean-Maurice Herman, à invoquer le ciel. Remercions le ciel de ne pas pleuvoir. La situation de cette énorme foule serait tout simplement effroyable et son ravitaillement presque impossible. En juin 1936, Herman avait été l'un des tout premiers reporters français à pénétrer dans la péninsule insurgée, où il s'était enthousiasmé pour le tumulte joyeux et désorganisé, pour les poings levés. Depuis, il a suivi l'arrivée des réfugiés basques en 1937. Nous le retrouvons en ce début 1939, effectuant une tournée dans les camps de concentration. Le 14 février, deux jours après son invocation, il s'écrit affligé. Ça y est, il a commencé ce soir à pleuvoir. Une petite pluie froide et serrée. Sur le sable souillé d'Argelès et de Saint-Cyprien, 140 000 hommes, leur nombre augmente à chaque heure, 140 000 hommes se blottissent en frissonnant les uns contre les autres, tirant sur leurs épaules amaigries les quelques vieilles couvertures qu'ils ont ramenées d'Espagne. Par contre, la pluie, pour contrer la pluie, des couvertures et la chaleur humaine. L'hebdomadaire de l'Union anarchiste, Le Libertaire, envoie l'un de ses rédacteurs, Maurice Doutreau, sur les lieux, à Saint-Cyprien, pour s'abriter. En plus de leurs maigres couvertures, les réfugiés recourent à des plaques de tôle arrachées de ci de là aux camions abandonnés. Beaubois, lui, sillonne pendant un mois le département pour l'humanité. Il pourfend la condition terrible de ces hommes qui n'ont que le ciel pour toit. À Argelès, un vent glacial s'était élevé, soufflant en trombe le long de la côte, emportant dans une folle sarabande de vieux linges, des brindilles et du sable mêlé de terre, écrit Ribécourt. À Saint-Cyprien, sur la plaine dénudée, le vent souffle avec violence. Il chasse des nuages de poussière en mugissant lugubrement, Les grains de sable picotent les visages, écrit Émile de Croix dans l'Humanité. La souffrance des réfugiés ne se limite pas au froid. J'en vois un pleurer en recevant un morceau de pain, écrit Hermann à Argelès. Ces dizaines de milliers de personnes ne s'étaient rien mis sous la dent depuis leur arrivée, variant de 24 heures à 3 jours. J'ai vu tout à l'heure des hommes mâcher des roseaux pour tremper leur faim, atteste Ribécourt à Saint-Cyprien. Voulez-vous retourner chez Franco ? Demande-t-on à la frontière. Qui veut aller à Handaï ? Crient les gendarmes dans les camps. Devant la faim et le froid subis par les hommes, Hermann finit par oser se demander, sans oser le croire, tellement ce calcul révélerait de cruels cynismes. Si on ne soumet pas exprès les réfugiés à ce régime pour peser sur leur volonté, pour les déterminer à la seule décision qu'on leur présente comme une porte de sortie de cet enfer, le retour à l'Espagne fasciste. Dans l'hebdomadaire illustré proche du Parti communiste Regard, Stéphane Magnier consacre le 23 février un article entier au plan qu'il prête au préfet. Que se cache-t-il derrière cette terreur, ce désordre, cette géhenne des camps ? Le pouvoir d'enchantement du chemin qui mène vers Franco ? Dès que s'ouvre l'itinéraire Pyrénées-Orientales-Handaï-Burgos, tout devient riant. Les camions, les trains, la soupe chaude font la haie sur le chemin qui mène vers Franco. Doutreau opine dans le Libertaire du même jour. Sitôt que quelques-uns, parmi les plus faibles ou les plus las, se sont laissés séduire, on change leur régime, ils sont mis à part, mieux nourris, mieux traités, et on les laisse jouir d'une plus grande liberté. Quant à la question sanitaire, mieux vaudrait n'en pas parler, en ce qui concerne les camps, assène Marc Bernard le 24 février, dans La Lumière, l'hebdomadaire radical socialiste d'éducation civique et d'action républicaine. Sa renommée consœur, Madeleine Jacob, décide de donner à voir la réalité du camp d'Argelès. On marche dans les excréments. Il n'y a dans le camp ni feuillet ni latrine, ni eau pour se laver. Ici, on fait cuire une poignée de riz. Tout près, un homme a mis bas la culotte et se soulage. Le camp, s'alarme-t-elle, est un nid à microbes. Il dégage une puanteur insoutenable. Les précipitations y sont d'autant plus redoutées. Il pleut. L'atmosphère est irrespirable malgré le plein air de la plage. L'odeur qui monte du sol est plus forte que tout. Il pleut. Ça veut dire que si on laisse ces hommes ici, ce sera vite l'épidémie la plus dangereuse. La maladie s'installe. Il y a des contagieux à la tour de Carole. Mais il y a aussi un fort ribécourt, des tuberculeux, des typhoïdiques. Il y a, ajoute-t-il à Bourg-Madame, des soldats atteints de cholécystite. Et la gale, comme dans les autres camps, règne et fait des ravages. Il y a des pleurésies à Argelès, des cas de dysenterie à Saint-Cyprien. Au Pertus, fin janvier, Hermann révèle l'intrusion brutale de la mort sur le territoire français. Soudain, on s'écarte. Trois carabiniers en espadrille passent avec une civière où gît un blessé. En voici un autre, mais cette fois, la couverture relevée sur le visage ne laisse deviner qu'une forme humaine étroite et rigide. Le détail des espadrilles ne manifeste pas seulement le talent pour la description du journaliste du Populaire. Pour les reporters présents à l'été 1936 dans l'Espagne révolutionnaire et antifasciste, les espadrilles étaient l'une des marques vestimentaires du peuple espagnol qui combattait. L'un de ses symboles. Au pied de ses carabiniers et au Pertus en 39, elles sont devenues comme les vestiges de ce combat, remplacées par les couvertures de la retirada, habillement du peuple vaincu, exilé et réfugié. Hermann en fait également un ornement mortuaire. La faim, le froid, au moment où nous montions l'avenue qui mène au camp, nous avons croisé six hommes qui portaient, dans une couverture, un jeune soldat en veste de cuir, affalé, livide, et qui avait cessé de souffrir. Le 18 février, Ribécourt, à la tour de Carole, semble tenir un registre comptable de la désespérance. Il en mourut de froid. Suivant les nuits, 5, 6, 7, 8... Cette nuit, il en est mort 7. Un réfugié tint à me les montrer. Près de la gare, sur une grande aire nue, 7 caisses de bois blanc étaient alignées. Début février, Madeleine Jacob signale une tentative de suicide au Boulou. Quand nous y sommes passés, un drame venait d'avoir lieu. Un milicien s'est poignardé de désespoir. Il n'est pas mort. Deux semaines plus tard, à Argelès, elle suggère l'attraction pour le suicide de nombre d'internés. Il pleut misérablement. Certains groupes ont construit des cahutes, d'autres ont préféré allumer du feu avec des branchages, d'autres, résignés, à bout de force et de souffrance, ont creusé un trou ou, recroquevillés, ils s'appliquent à tenir le moins de place possible. On dirait qu'ils attendent le moment de mourir sans en avoir trop l'air. La révolte des reporters cible la déshumanisation et l'animalisation subies par les réfugiés. Parqués comme des bêtes, à Argelès ou à Amélie-les-Bains, disent Hermann et Ribécourt. À peine mieux traités en un mot que les troupeaux de moutons qui emplissent les arènes de Céret. Près de Saint-Cyprien, dit Bernard, ces hommes ne sont plus considérés comme tels par le pouvoir en place. Sur la plage, écrit Madeleine Jacob, Ils sont plus de 60 000 derrière les fils barbelés, comme des coupables ou des bêtes dangereuses.
A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida, a las 5 de la tarde, lo demás era muerte. Y solo muerte hay a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. La lucha la paloma y el leopardo. A las 5 de la tarde, justo con un asta desolada. A las 5 de la tarde, comenzaron los sones de Bordeaux. A las 5 de la tarde, en la campana. Se cubrió de lloros. a las cinco de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde.
Si l'on manque de tout dans les camps, le gouvernement n'a donc pas oublié d'encercler les réfugiés avec des clôtures et de les faire garder à vue. Fin janvier 1939, Parot relève dans « Ce soir » ce contraste. On a appelé les troupes sénégalaises, mais nous n'avons vu ni au Pertus, ni à Bourg-Madame, ni à Prat-des-Molos, ni à Cerbère, où tout un peuple affamé et suppliant courait sous le tunnel, nous n'avons pas vu le moindre poste de secours, la moindre cuisine roulante, la plus petite distribution de vivres. Toutefois, Émile Kahn souligne, le 15 février, dans les Cahiers des droits de l'homme, que de son côté, la France populaire se saigne aux quatre veines et dépense des trésors de pitié fraternelle pour les réfugiés qu'il est possible de secourir. L'Humanité et l'hebdomadaire de la Confédération générale du travail, Messidor, saluent le travail de la Centrale sanitaire internationale, créée au début de la guerre par les médecins par le médecin communiste Pierre Rouquès. Dans Le Populaire, qui fut le journal de Jaurès et de Léon Blum, dans Le Populaire, donc, Roger Dufour, secrétaire général du Comité socialiste de secours à l'Espagne républicaine, crie « Au secours des réfugiés d'Espagne !» L'organe de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, convoie un camion pour les réfugiés. Donnez des vivres, des vêtements aux Espagnols malheureux. Le libertaire lance un appel. Plus que jamais, des vivres, des vêtements, des lainages, des médicaments. Des journaux impulsent des souscriptions pour les enfants espagnols, souvent. Tel le 10 février dans la Flèche de Paris, organe du parti frontiste dirigé par Georges Bergerie. Alors là, je précise personnellement, certainement vous avez tous fait un bond quand vous m'entendez que le parti frontiste a participé aux opérations de sauvetage des réfugiés espagnols. Alors le parti frontiste pendant la guerre 39-45, c'était le parti qui était fondé par les résistants et en particulier les résistants étrangers. En particulier le groupe de résistants de Missak Manoukian. Et c'est une chose, quand j'ai découvert ça, j'étais malade d'épouvante de penser à ce que le parti frontiste était devenu actuellement, ou jusqu'à une période très récente. Alors, j'ai cherché l'explication au mystère, j'étais tellement scandalisée, et j'ai trouvé que le nom d'un parti s'inscrit, comme tous les noms de marque, il s'inscrit à l'INPI et à une section spéciale de l'INPI, je crois. Et l'orthographe a une importance capitale. Alors, le Front National des résistants pendant la guerre, et des résistants étrangers en particulier pendant la guerre, ils avaient mis national parce qu'ils étaient venus en France par amour de la France. Ils étaient réfugiés aussi, ils étaient réfugiés de Tchécoslovaquie, de Roumanie, de Grèce, etc. Ils étaient venus par amour de la France et ils ont risqué leur vie, ils ont perdu leur vie souvent par amour de la France. Et c'est pour ça qu'ils avaient pris ce nom de Front National. Il y a eu une différence dans l'inscription, dans l'enregistrement du nom du parti, Front National, pendant la guerre 39-45. Il y a une différence donc entre les majuscules. Et vous pouvez regarder dans la presse courante, la presse jusqu'à il y a un an ou deux, hein, vous verrez que Front National du 21e siècle, il y a peut-être, s'il y a deux majuscules, à F et à N, c'est que le Front National de la guerre de 39-45 n'en avait qu'une, probablement à parti, ou à front plutôt, voilà. Bon, donc je ne sais même plus précisément quel était le parti qui avait adopté les deux lettres majuscules. Mais enfin, je reste tout de même épouvantée qu'on ait laissé le FN, comme on disait, prendre ce nom prestigieux et glorieux que je considère avec beaucoup d'autres résistants comme sacrés. C'est une insulte à la résistance, au civisme et à notre liberté, égalité, fraternité. Alors donc, des journaux ont lancé des souscriptions comme La Flèche de Paris, organe du parti frontiste de la guerre de 39-45, dirigé par Gaston Bergerie. Un simple devoir d'humanité, subvenir aux besoins des enfants espagnols. La célèbre commentatrice du quotidien radical-socialiste L'Œuvre, Geneviève Tabouy, a d'ailleurs pris en charge, dès début janvier, une souscription au secours des enfants espagnols. Et la légende de la photographie de réfugiés en une de regard du 2 février s'exclame « Vieillards, femmes, enfants, chassés par l'invasion qui se rapproche de notre pays, ouvrez-leur les bras !» Alors l'invasion, c'est l'invasion fasciste, hein, bien entendu. Alors Geneviève Tabouy, on n'en parle plus beaucoup et pourtant c'était une journaliste complètement extraordinaire qui connaissait qui connaissait la personnalité, elle ne les connaissait pas forcément elle-même et eux-mêmes, mais elle savait exactement qui ils étaient, au point que Hitler disait de Geneviève Tabouy qu'elle savait ce qu'il allait faire avant lui. Je ne sais pas si vous voyez le salut que ça représente pour Geneviève Tabouy, qui évidemment était une journaliste socialiste. Les reporters soulignent la solidarité de nombreux Français. Au boulot, relève Herman dans le Populaire, grâce au dévouement inlassable des volontaires recrutés parmi la population, une bonne soupe chaude, un rata appétissant, du lait réconfortent les réfugiés. À Perpignan, dans les villages avoisinants, on les loge, ils sont soignés avec un dévouement qui vous redonne confiance dans les hommes, relève l'écrivaine Elsa Triolet dans Regard. Même le reporter de Paris Soir, droite et extrême, Henri d'Anjou, souligne lui aussi que des gens charitables de Perpignan distribuent à ces malheureux des oranges, des vivres. Ils leur versent des boissons chaudes et du lait. Dans sa chronique quotidienne de ce soir, Louis Aragon informe du déluge de lettres de Français qu'il reçoit pour proposer de prendre des enfants chez eux. une expression de Germaine Descaris montre que ce mouvement de solidarité est national. Il y a, en ce moment, dans le Calvados, comme sans doute dans maintes régions françaises, le miracle des réfugiés, écrit-elle dans l'œuvre du 11 février.
Silenzio, silenzio de Calimirto, malvas en las hierbas finas, la monja borda lelíes sobre una tela pajiza. Vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma. La iglesia gruñe a lo lejos como un oso panza arriba. ¿Qué bien importa con qué gracia? ¿Qué bien importa? Sobre la tela pajiza, ella quisiera bordar flores de su fantasía. Qué girasol, qué magnolia, de lentejuelas y cintas, qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa. Toronjas endulzan en la cercana cocina las cinco llagas de Cristo cortadas en Almería. Por los ojos de la monja galopan dos caballistas, un rumor último y sordo le despega la camisa. Qué bien borda, con qué gracia. Qué bien borda, con qué gracia. Y al mirar nubes y montes en las ciertas lejanías, se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa. Oh, qué llanura empinada, con 20 soles arriba, qué ríos puestos de pie, vislumbra su fantasía. Mientras que de pie en la brisa la luz juega el ajedrez alto de la celosía. Qué bien borda, con qué gracia. Qué bien borda, con qué gracia.
Dans la presse conservatrice, le miracle ne saute pas aux yeux. Un reporter de l'Intransigeant alerte. Il est à peu près impossible d'empêcher les réfugiés de quitter les camps pour gagner l'intérieur du pays. Perpignan est déjà envahi. Les patrouilles nocturnes, les services d'ordre en gare, les visites domiciliaires révèlent chaque jour la présence de centaines d'Espagnols en résidence illégale. Mais des unités coloniales gardent les camps. Dans ce soir, Ribécourt remarque la présence de tirailleurs. Hermann signale celle de fantassins et des spahis, hein, les troupes d'Afrique du Nord, dans le populaire, et d'Outreau, dans le libertaire, celle de goumiers marocains. Mais les plus désignés sont les Sénégalais. Bernard décrit leur installation aux abords du camp de Saint-Cyprien dans la lumière. Plus le terrain devient sableux, le trafic plus intense, les barrages de gardes mobiles plus nombreux. À l'extrémité de la plaine, les Pyrénées se dressent avec leurs hautes montagnes que domine le Canigou, couvertes de neige. Soudain, vous découvrez d'énormes termitières qui soulèvent le sol, autour desquelles des taches noires et rouges se déplacent avec lenteur. C'est le campement des Sénégalais. Les mesures de sécurité s'expliquent par ce qu'on ne dit pas. Le camp est une prison. Pis, s'insurge Ribécourt, le bagne doit être moins dur car je laisse. Hermann, à la tour de Carole, reprend cette analogie. Je fis le tour du camp où j'allais connaître que ma visite aux autres bagnes ne m'avait décidément pas tout appris sur l'enfer des camps de concentration. Selon lui, les internés sont traités plus mal que des prisonniers de guerre. Autant j'ai eu le plaisir à rendre hommage à l'humanité des gardes mobiles qui accueillaient les réfugiés il y a 15 jours au Pertus et à Cerbère, prévient par conséquent Madeleine Jacob le 17 février dans Messidor, autant je déplore d'avoir à dénoncer la brutalité de certains d'entre eux chargés de la police des centres d'hébergement ou des camps. Le même jour, Bernard brosse dans la lumière une scène qui se veut emblématique du traitement infligé aux républicains espagnols. Un vieil homme qui s'avise en termes courtois de faire une observation à un gendarme particulièrement brutal reçoit une gifle qui le jette à terre. Un milicien ayant voulu s'interposer est roué de coups et laissé à demi-mort. Toutefois, rétorquerait à l'extrême droite l'organe du Parti social français, le Petit Journal, dirigé par le colonel François Delaroque, la débâcle des marxistes espagnols oblige à protéger le territoire. L'armée du crime est en France. Qu'allez-vous en faire ? Titre pour sa part l'hebdomadaire antisémite Gringoire. Alors l'armée du crime, si vous vous souvenez, c'est le titre qu'a donné Guédiguian à son film en hommage au réseau Manoukian. L'armée du crime est en France, qu'allez-vous en faire ? Titre pour sa part l'hebdomadaire antisémite Gringoire. Le 8 février, le journal littéraire Candide sonne le tocsin. Toute la lie, toute la pègre de Barcelone, tous les assassins, les tchéquistes, les bourreaux, les déterreurs de Carmélite, tous les voleurs, tous les pillards sacrilèges, tous les thénardiers de l'émeute font irruption sur notre sol. Au Pertus, le fameux reporter Henri Béraud précise néanmoins le lendemain dans Gringoire qu'il y aurait dans le troupeau des bons et des mauvais. À côté des épuisés et des agonisants, des violateurs de sépultures, donnant le bras aux femmes enceintes, les éventreuses sadiques, et sur le pas des enfants aux yeux clairs, j'aime bien les yeux clairs, les scélérats les plus atroces, les tortionnaires les plus cruels, les politiciens les plus lâches. L'Action française, organe du nationalisme intégral, vitupère. La France réelle ne veut pas servir de dépotoir aux criminels et aux assassins. Oui, un peu de musique pour se remettre, hein. Ça sera pas du luxe.
Plaza gris del sueño con sauces en las barreras
que no quiero bailar que mi
mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramadas en la arena y los toros deguisando casi muerte y casi piedra mugieron como dos siglos hartos de pisar el
No!
Peut-être inspiré par une telle rage, une révoltante brutalité, disait Ribécourt, s'exerce contre des hommes affamés. J'ai vu un capitaine de garde mobile, chassé, à coups de crosse, des soldats qui se ruaient, sans un mot, sans bagarre, sans révolte, mais dans un élan animal et irrésistible sur un camion de pain, raconte Hermann à Argelès. La fin. Ce fut simple, relève Ribécourt. Un pain pour 25 soldats. Et s'il y avait des récriminations, les Sénégalais que l'on dirigeait et qu'on armait de cordes à nœuds étaient là pour cela. Le 14 février, il rapporte « J'ai vu moi-même hier soir et ce matin, de mes yeux vus, un Sénégalais se ruer sur un de ces malheureux qui revenait du buisson de roseaux voisin et le frapper à coups de crosse, parce que, là, d'attendre le bois pour construire des baraques, il était allé chercher lui-même des roseaux pour faire du feu durant la nuit. » Dans le Libertaire, Doutreau s'attarde sur le sentiment éprouvé par les Espagnols vis-à-vis des soldats maghrébins. Avec un rare manque de tact, le gouvernement français a commis à la garde des miliciens des soudards qui rappellent à nos camarades les brutes de Tercio. Tercio, je vous précise, Tercio, c'était la, je ne sais pas si ça l'est encore, mais c'était la Légion étrangère espagnole. Il était difficile d'être plus mufle. Élément remarquable, il ébauche en outre une analyse de la violence dont font preuve les Spahis, les Sénégalais. Qui sont les chiens de garde issus de notre empire ? Oui, qui étaient dirigés par nous d'ailleurs, hein. Ces Sénégalais ou Marocains étaient, certifient les historiens, des gardiens difficilement corruptibles et totalement incompréhensifs, des troupes plus sûres en la circonstance que n'importe quel régiment français. Des reporters se penchent aussi sur la condition des femmes réfugiées. Chazoff et Ossard rapportent dans le SIA, l'organe de la solidarité internationale antifasciste, du 9 février, le fait suivant à Perpignan, précédé de l'intertitre « La traite des Blanches ». Des hommes infâmes proposent 100 francs pour la sortie des camps, une soirée au cinéma et la suite. Le lendemain, Betty Dartel raconte dans « La Flèche de Paris » Autour de cette misère rôdent certains messieurs à Cerbère. Il y a 2 jours, on a découvert que, il y a 2 jours, on a découvert, oui, qui évidemment faisait preuve d'étrange sollicitude. Il s'apprêtait à aider les femmes d'une façon assez curieuse, en les dirigeant sur des maisons abritées, mais surtout closes. Ces récits restent très marginaux dans les reportages, comme l'est la mention d'une violence exercée sur des femmes. Manier relate toutefois dans Regard un incident raconté par un tiers. À Saint-Cyprien, dans la nuit qui a précédé ma visite, une demi-douzaine de soldats sont entrés dans le camp des femmes. Leurs cris alertèrent à temps les gardes mobiles. Les reporters ne sortiront pas indemnes de leur vision de la retirada et des camps. Depuis 1936 et le début des bombardements sur les villes espagnoles, ils ont souvent confié leurs difficultés à écrire ce qu'ils voyaient, à se dépasser pour fournir l'information, à regarder le pire lors des bombardements où chaque once de territoire des villes exhibe un cadavre déchiqueté. « Je suis allé là pour vous », précise la célèbre reportrice communiste Simone Théry, au lecteur de Messidor, avant de lui décrire, quasi cliniquement, la morgue de Barcelone en avril 1938. Au début de 1939, cette réalité, devenue celle du sol français, n'est pas moins difficile à concevoir, donc à transcrire. Parot au Pertus, fin janvier, s'exclame dans ce soir. On détourne malgré soi les yeux devant cet effrayant déballage de misère humaine, tout ce que l'on pourrait dire sur le lamentable exode et sur l'attitude la plus lamentable encore de l'administration serait au-dessous de la vérité. Mi-février, Ribécourt s'interroge à Amélie Lesbains dans le même journal. Comment s'éterniser plus longtemps sur toutes ces souffrances? Comment dire dans tous leurs détails toutes les scènes que nous avons vécues? Comment souligner toutes les misères que nous avons approchées? Ayant connu tout au long de la guerre le feu et le sang aux côtés des populations civiles, les reporters écrivent qu'ils s'en souviendront. Du bruit des avions, du spectacle des destructions, des cadavres, des innocents massacrés. Le 7 février, Hermann proclame dans le populaire « Aucun de ceux qui furent aujourd'hui au Perthus ne pourra oublier cette extraordinaire vision. Un peuple entier, préférant l'exil à l'esclavage, défile sans cesse, sans hâte, sans cri, depuis les premières heures de la matinée. » Ribécourt écrit avec force le 17 février dans « Ce soir » « Je viens de vivre 24 heures inoubliables, 24 heures de détresse, de misère, de saleté, de sang, de froid, de grandeur. 24 heures de la vie du camp d'Argelès. » En février 1939, Terry est à Valence. En 1947 est publié son roman sur la guerre d'Espagne, La Porte du Soleil, dans lequel elle a injecté plusieurs de ses reportages. Et elle accuse. Les Espagnols pourront oublier, peut-être. Ils savent que les gardes mobiles, ce n'était pas la France. Mais nous, Français, comment pourrons-nous jamais oublier? Ces visions d'enfer remplacèrent-elles définitivement chez les reporters celles des premiers temps de l'été 36 où la joie de la lutte fraternelle le disputait à l'engouement du champ? Réfléchissant aux raisons du traitement enduré par les réfugiés espagnols, la narratrice du roman de Terry offre une possible réponse. Pour cette France-là, l'Espagnol représentait un danger mortel. C'était un porteur de germes. Il portait le microbe de la liberté. Certains des reporters et des réfugiés l'emporteront avec eux. Le microbe de la liberté. Dans la résistance.
Los caballos negros son las herraduras, son negras sobre las capas, relucen manchas de tinta y de cera. Por eso no lloran de plomo las calaveras con el alma de charol, vienen por la carretera.
Jorobado si nocturno por donde animan, ordena silencio de goma pura y miedo de fina arena.
Y ocultan en la cabeza y una vaga astronomía de pistolas y
y la luna y la calabaza. Y con la guinda en conserva. Quien te vio no te recuerda, ciudad de dolor y amiga, y con la torre de canela. Ciudad de los gitanos, que te dio no te recuerda.
Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en su fragua forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la Frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa en la noche platinoche, noche que noche nochera. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin cadera. Agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la Frontera. ¡Ay, ciudad de los gitanos! En las esquinas bandera, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. ¡Ay, ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar, sin peine para sus cranchas.
Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras.
Sale dos en fondo,
un doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de fuera. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ella.
Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospecha. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de moneda. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijera. En el portal de Belén, los gitanos se congregan. San José lleno de heridas amortaja a una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. Y la Virgen cura a los niños con salivilla de estrella. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hoguera, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa, la de los camborios, gime sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían, perseguidas por sus trenzas, en un aire donde estallan rosas de pólvora negra, cuando todos los tejados eran surcos en la tierra. El alba meció sus hombros en largo perfil de piedra.
Oh, ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Juego de luna y arena. Juego de luna y arena.
Pour quelques précisions. D'abord, quelques dates. Le 27 mars 1939, c'est la reddition des armées républicaines. Le 28, les franquistes entrent dans Madrid. Le 30, dans Valence et Alicante. Le 31, c'est le tour d'Almeria, de Carthagène et de Murcie, d'être occupés. Le 1er avril, Franco annonce à la radio « La guerre est terminée ». Et vous pouvez vous reporter aux ouvrages de Geneviève Dreyfus-Armand et d'Émile Temim, « Les camps sur la plage, un exil espagnol » dans la collection Autrement, chez Autrement, dans la collection Français d'ailleurs, Peuple d'ici. C'est paru en 1995. Et le livre de Simone Terry, dont j'emprunte le titre, La porte du soleil, est paru à l'Harmattan dans la collection Les Introuvables. Il est paru en 2018. Et je crois qu'il faut se précipiter dessus. Je profite aussi de ce moment espagnol pour envoyer toutes mes amitiés et de gros bisous à mes amis Marie-Carmen et Gonzalo. Je vous remercie de votre écoute. Nous allons terminer en Espagne, bien entendu. Et puis, vous retrouverez le podcast probablement demain. Et je vous retrouve mercredi prochain. Vous aurez une rediff samedi. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau contre-histoire et un agenda de rentrée qui sera probablement assez étoffé. Merci de votre écoute. Bon pont à vous tous et bonnes vacances à ceux qui y sont déjà ou encore. À tous mes amitiés.
Se cerraron ay no se cerraron oh, sus ay, cuando vio los cuernos cerca, ay, 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 pero las madres terribles.
a través de la nada, alegría. Hubo un aire de voces secretas.
MHz, 40 rue Alfred Duméril, téléphone 05 61